Vous êtes sur France Culture, les informations de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. Créer des camps de transit aux portes de l'Union européenne pour les migrants, le temps que leur dossier soit instruit. Solution officieuse évoquée par certains pays membres pour contenir l'arrivée de ces migrants. Les camps pourraient être implantés en Afrique surtout, nous y revenons. Dans cette édition encore, nous irons au Chili où des émissaires du Vatican ont recueilli des centaines de témoignages de Chiliens victimes d'abus sexuels au sein de l'Église. Et puis comment les jeunes Européens voient-ils la radicalisation dans leur pays? Un réseau les a interrogés, analyse dans moins de 10 minutes. Oui à un budget de la zone euro à partir de 2021. La France et l'Allemagne se sont mises d'accord hier. Reste à négocier son montant et son financement avec les autres pays membres. Voilà ce qui s'est décidé au nord de Berlin lors d'une rencontre entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Sur le volet migration maintenant, faute d'avoir trouvé un consensus pour réécrire le règlement de Dublin qui fait, rappelons-le, porter la seule charge de l'accueil sur les pays de première entrée. Faute de réussir à réformer ce règlement donc, les États européens pourront s'accorder pour créer des plateformes régionales chargées de gérer les réfugiés, plateformes qui seraient installées hors du sol européen, Marie-Pierre Véraud.
Que d'où viennent la majorité des migrants qui tentent de gagner les rivages européens seraient parmi les implantations de choix. Il s'agirait dans ces centres qui pourraient voir le jour en Afrique du Nord de trier entre les candidats à l'asile ayant un besoin de protection et les migrants économiques selon la distinction désormais entrée dans le discours politique. C'est ce qui figure dans un projet de déclaration avant le sommet de la fin du mois, un document dévoilé par les agences de presse encore susceptibles d'évoluer. Un tel système prendrait des libertés avec le droit d'asile. Les conventions qui le régissent stipulent en effet le non-refoulement des candidats à l'asile qui peuvent donc déposer leur demande en Europe s'ils le désirent. Mais le discours anti-migrant a pris une telle ampleur, alors même que le chiffre des arrivées a fortement chuté, que les gouvernements européens sont incapables de s'entendre sur une politique d'accueil et de solidarité malgré les belles déclarations. L'Allemagne préférera sans doute conclure des accords bilatéraux, notamment financiers, pour ne pas voir arriver de demandeurs d'asile d'Italie ou de Grèce. Elle avait déjà initié avec la Turquie, pays qui n'a pas de droit d'asile à proprement parler, un tel accord, se traduisant par plusieurs milliards d'euros versés par l'Europe à la Turquie en échange de la fermeture de la route des Balkans et de celle de la mer Égée vers la Grèce. La Turquie hier, l'Afrique demain, payer pour garder les candidats à l'asile, sans oublier les accords que l'Europe, guidée par l'Italie, a déjà conclus avec la Libye. Plusieurs dizaines de millions d'euros pour former et équiper les gardes-côtes et empêcher toute traversée. Là aussi, l'accord est controversé en raison du chaos libyen et de l'enfer raconté par les réfugiés qui ont réussi à s'en échapper.
Réfugiés qui arrivent encore par dizaines, par centaines en Europe. Ainsi, hier, plus de 500 migrants sont arrivés en Sicile, débarqués d'un navire italien. Polémique autour de l'immigration aux États-Unis aussi. Malgré le déluge de critiques de l'ONU du Mexique notamment, Donald Trump a revendiqué hier encore sa politique de tolérance zéro aux frontières. Depuis le début du mois de mai, plus de 2300 enfants ont ainsi été séparés de leur famille. Des envoyés spéciaux du pape François étaient au Chili ces derniers jours, chargés par le souverain pontife de recueillir des témoignages de victimes de pédophilie ou autres violences sexuelles commises au sein de l'église chilienne. Des évêques et des prêtres ont déjà été suspendus ou poussés à la démission. Et le sujet est loin d'être fini, Justine Fontaine.
Cette fois-ci, les témoignages étaient tellement nombreux que l'archevêque de Malte et le prêtre Jordi Bertomeu n'ont pas eu le temps de s'entretenir avec toutes les victimes qui leur avaient écrit. Déjà en février, lors de leur premier voyage, les émissaires du pape avaient remis à François un rapport de 2300 pages regroupant les témoignages de dizaines de victimes de violences sexuelles et d'abus de pouvoir au sein de l'Église. Un rapport dont le contenu reste secret aujourd'hui, mais qui a poussé les évêques du pays à présenter leur démission en bloc le mois dernier et qui intéresse aujourd'hui la justice. Pour la première fois, les locaux de l'église ont été perquisitionnés ces derniers jours et l'émissaire du pape, l'archevêque de Malte, a même été auditionné en tant que témoin juste avant le départ de son avion hier. Ces derniers jours, deux nouveaux prêtres ont été suspendus et le pape François a accepté la démission de trois évêques. Au moins deux d'entre eux sont soupçonnés d'avoir couvert des prêtres accusés de violences sexuelles. Les envoyés spéciaux de François ont failli provoquer une nouvelle polémique hier en confiant à une commission de l'Église chilienne le soin de poursuivre les auditions de victimes. L'instance est tellement critiquée ici que l'Église a dû préciser dans la journée que plusieurs membres contestés ne participeraient pas à ce processus.
Après 36 jours de grève en pointillé, l'unité syndicale vole en éclats à la SNCF. L'UNSA a décidé de sortir du mouvement dans 8 jours, le 28 juin prochain. La CFDT pourrait faire pareil, alors que la CGT et Sudrail de leur côté prévoient des actions cet été, début juillet notamment. Le gouvernement présentait lundi avant-hier son projet de loi Pacte, destiné à simplifier la vie des entreprises. Une commission spéciale se met en place en ce moment à l'Assemblée pour examiner le texte, le modifier si besoin. Mais le projet est déjà équilibré, disait hier soir sur France Culture Delphine Gény-Stéphane, la secrétaire d'État au ministre de l'économie Bruno Le Maire. La secrétaire d'État donc était l'invitée du journal de 22h de Stanislas Vazak.
Il s'agit d'un texte qui concerne aussi les salariés et l'ensemble des Français. C'est un point essentiel de Pacte qui est de généraliser l'intéressement et la participation dans les PME. Aujourd'hui, dans les entreprises de moins de 50 salariés, seuls 16% des salariés bénéficient d'un dispositif de ce type, ce qui est très peu. Donc il y a un gisement qui est considérable pour que la croissance et les profits des entreprises soient mieux partagés avec les salariés.
Mais là, il n'y a pas non plus de caractère contraignant pour le chef d'entreprise.
Non, un caractère fortement incitatif, puisque le forfait social est mis à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun prélèvement sur ces sommes dédiées à l'intéressement et à la participation. Donc l'intégralité des sommes distribuées par l'entreprise vont aux salariés.
Et ce projet de loi sera examiné en septembre, au plus tôt, dans l'hémicycle de l'Assemblée. Un hémicycle dans lequel le député centriste Yves Jégot ne mettra bientôt plus les pieds. Réélu pour la quatrième fois il y a un an tout juste, dans la cinquième circonscription de Seine-et-Marne, il passe la main à son suppléant pour rejoindre une jeune entreprise spécialisée dans le développement durable. Yves Jégot a en fait le sentiment de perdre son temps à l'Assemblée nationale.
Alors c'est vrai que c'est confortable, hein. J'ai un beau bureau, un chauffeur, je suis vice-président de l'Assemblée, tout ça pourrait dire, bon, on reste dans le confort, mais un confort qui ne produit rien, pour moi en tout cas, est un confort qui n'a pas de sens. Je pense que le Parlement, c'est le lieu où la démocratie se théâtralise. Et c'est bien qu'il y ait un lieu, que ce ne soit pas dans la rue. Donc je pense qu'il vaut mieux avoir le grand théâtre au Palais Bourbon que dans la rue. Mais au fond, derrière ça, il y a un déséquilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif qui s'est fait depuis des années. Je n'accuse personne à court terme. Et qui fait qu'aujourd'hui, le Parlement est plus un lieu de conservation où on est plutôt suiveur que précédeur. Et au fond, c'est ça qui est peut-être frustrant pour des gens comme moi, de se dire c'est pas là où se jouent les choses. On l'a vu sur la loi alimentation-agriculture, rien n'est passé parce que la maison est une espèce de chaudron de conservatisme.
Le député Yves Jégot qui quitte donc l'Assemblée nationale. Le rôle du député a-t-il été modifié? Vous pouvez donner votre avis sur le site internet de France Culture, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, grâce au nom de code, au hashtag Nouveau député. Dans 10 jours, la limitation de vitesse sur les routes départementales passera à 80 km/h, opération de communication lancée aujourd'hui par le gouvernement. Alors que dans le même temps, une quinzaine de députés centristes et à droite déposent au Conseil d'État un recours en annulation contre le dit décret. Selon une étude menée dans 12 pays européens, 47% des jeunes interrogés entre 14 et 24 ans, 47% de ces jeunes considèrent que la radicalisation violente est répandue dans leur pays. Le sondage a été réalisé par le réseau Practices, partenariat européen contre la radicalisation menant à la violence dans les villes. Mais ce sondage peut être contesté, Florence Turme.
L'intérêt de cette étude, c'est a priori sa dimension européenne et quelques réponses surprenantes. Près de la moitié des jeunes interrogés se déclarent par exemple satisfaits de l'action de leur gouvernement en matière de lutte contre la radicalisation violente et plus de la moitié pensent qu'il est acceptable de limiter les libertés individuelles dans certains cas. En revanche, la photo d'ensemble reste floue, difficile de cerner les contours et les mécanismes de radicalisation, trop d'imprécisions dans le propos, même si l'objectif est bien de prendre en compte non pas une seule mais plusieurs formes de radicalisation. Souligne le professeur Séraphin Alava, chef de file du projet.
Aujourd'hui, quand on parle prévention de la radicalisation, nous devons entendre prévention des radicalisations. Je pense par exemple aux actions éducatives qui ne focalisent que sur la lutte contre le djihadisme, même s'il est très important. Mais en même temps, il faut travailler à comment les idées xénophobes, les idées antisémites, les idées radicales rentrent dans la jeunesse. Nous avions inclus le sexisme et nous trouvons près de 30% de la population qui considère que le sexisme terrorisme est une radicalisation. Si on veut travailler sur la prévention, il faut penser à demain. Et pour penser à demain, nous devons lutter contre l'inclusion de ces idées radicales dans la population. Quand on regarde les jeunes et qui croient globalement à beaucoup de théories du complot, quand ils se détournent des médias, alors on peut se préoccuper de comment l'éducation citoyenne va être réalisée. Et je crois que là, il faut vraiment travailler sur ce point-là.
Plus de la moitié des jeunes interrogés se disent en effet exposés toutes les semaines à des discours haineux sur Internet. Plus de 80% d'entre eux se sont déjà sentis discriminés. Mais c'est l'apparence physique ou vestimentaire qui vient en premier lieu des raisons invoquées, loin devant l'origine sociale, la religion et l'orientation sexuelle.
Les prévisions météo du jour, c'est assez simple. Du soleil pour tout le monde et des températures très chaudes. 21 degrés dès ce matin à Paris, 23 à Rennes, 25 à Strasbourg et Lyon, 28 déjà à Bordeaux, Montpellier et sur la Corse.